Merci, Pasteur Steve. Merci à chacun de vous. Merci de votre accueil. C'est vraiment une grande joie de partager ces moments avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes aujourd'hui, vous le savez, dans un culte de Pâques. Hein. C'est un moment important. Hein. Notre sœur dans la louange disait que c'est le jour essentiel, le jour de Pâques. Le jour de la... Nous marquons la mort du Christ et sa résurrection. Heureusement qu'il est ressuscité. Sinon, cette mort eût été en vain. Et mort à laquelle nous sommes associés. Et nous l'oublions souvent. Souvent, nous oublions que le Christ est mort et ressuscité, mais que dans la réalité, il en est de même pour nous. En principe. Il en est en principe de même pour nous. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous dire ma joie qui a été la mienne de faire ce voyage missionnaire avec le pasteur Steve et Mathis. Vraiment, vous avez un pasteur extraordinaire. Ce n'est pas des paroles de politesse. Je le savais avant de voyager avec lui, sinon je ne l'aurais pas pris. Soyons très clairs, je ne m'embarrasse pas avec les gens pénibles. J'ai trop d'expérience à Madagascar pour savoir que ça finit toujours mal, cette histoire. Donc, il y a une petite sélection au départ, et il n'y avait pas d'hésitation en tout cas. À l'idée de Mathis, là je ne le connaissais pas. Et je me disais, un jeune va-t-il tenir le coup ? Parce qu'il faut tenir des 8h, 9h de route dans des conditions comme nous le vivons. Eh bien, Mathis, c'est un gars extraordinaire. J'ai découvert un gars super. Et en plus, plus courageux que son père. Et plus courageux que moi. Parce que lui, il a bravé le serpent. Nous, on l'a lâché. Hein. Reste à ta place, nous, ça ne nous intéresse pas ton truc là. Mais lui, il a été vraiment courageux. Vraiment, je les remercie et comme je le disais et comme le pasteur Steve vient de vous le dire, je crois que le Seigneur a ouvert une porte que nul ne fermera pour son ministère, mais ça va entraîner aussi votre Église. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, notamment si c'est un pasteur qui conduit une Église, il entraîne aussi avec lui toute une Église dans cette vision. Alors il y a une partie que vous n'avez pas vue dans ce film, parce que bon, Madagascar c'est grand et il y a beaucoup de choses, mais une partie de là où nous travaillons, parce que nous travaillons dans le sud-est de Madagascar, nous travaillons à Farafangan depuis maintenant presque 30 ans, puisque l'année prochaine ce sera nos 30 années de ministère, et là-bas nous avons toutes nos églises, puisque nous avons une cinquantaine d'églises, que nous avons implanté, les pasteurs que nous avons formés, et aussi une base avec toute une action sociale et sanitaire auprès d'enfants. Nous avons 300 enfants, certains en pensionnat, d'autres en vie normale. Ils sont toujours, on les nourrit aussi, nous les soignons, et nous faisons une action aussi des prix des villageois, une zone très très pauvre, des familles qui vivent avec moins d'un demi-euro par jour. 5000 arrières, et pour ceux qui connaissent, c'est déjà trop. Et c'est en dessous de quoi acheter un capoc de riz pour toute la famille. Le capoc de riz, c'est une boîte de lait concentré, sucré, Nestlé. Voilà la dose à Madagascar, c'est le capoc. Et donc, il y a cette réalité d'une très grande pauvreté. Et ça, c'est notre appel. On me confond souvent pour un prêtre catholique devant notre maison à Farafangan. Les gens, ça, dès le matin, arrivent. Mon père, je ne suis pas ton père, moi. Ils me prennent pour le père Pedro, si vous le connaissez. Et en fait, eh bien, c'est sans arrêt des gens qui viennent me dire « Je ne sais pas nourrir mes enfants. » Au mois de septembre, à notre école, une femme qui a fait 10 km à pied, qui est arrivée à l'école et qui a dit « Je vous laisse mes enfants, je ne suis plus capable de les nourrir. » Et on a dit non, parce que nous, on ne veut pas séparer une maman de ses trois enfants. On vous propose une chose, on vous construit une petite maison, vous venez habiter sur place, vos enfants intègrent le pensionnat, vous les voyez tous les jours, vous gardez votre bébé avec vous, parce qu'elle a quatre enfants. Et cette femme, sa vie a changé. En 5 mois maintenant, ou 6 mois, elle a grossi. Ça, c'est un standard important. Hein. Reprendre du poids parce qu'elle était squelettique. Elle a la joie de vivre. Ses enfants sont heureux. Et elle nous a fait le cadeau. Elle avait oublié de nous dire qu'elle avait une cinquième et qu'elle avait 14 ans. Et un jour, elle est arrivée avec. Et on l'a prise aussi. Et c'est notre vie, c'est notre quotidien. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur nous a permis de vivre. Alors, ouvrons notre Bible ensemble sur cette merveilleuse réalité de la mort et de la résurrection du Christ et sur le sens de la Pâque. Nous sommes tous d'accord que très souvent, lorsque quelqu'un, un prédicateur prêche le dimanche de Pâques, il axe sa prédication sur la croix et sur la résurrection. Et c'est juste de le faire. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin que la mort et la résurrection de Christ. J'aimerais nous faire prendre conscience ensemble, eh bien, c'est qu'il n'y a pas que Christ qui est mort sur la croix. Il n'y a pas que Christ qui, en principe, est ressuscité. Nous le sommes. Et si nous lisons en Galates 5, 20, si vous voulez bien le lire avec moi, qu'est-ce que nous lisons ? J'ai été crucifié avec Christ. Vous avez bien entendu ? J'ai été crucifié avec Christ. Tu as été crucifié avec Christ. Eh oh, la crucifixion, ça fait mal. Eh oh, la crucifixion, ça mène à la mort. Et là, il ne s'agit pas seulement de Christ, il s'agit de toi. En tout cas, l'apôtre Paul dit, moi, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui vis. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Frères et sœurs, le chrétien, en principe, est mort dans sa nouvelle naissance, est mort avec le Christ et vit pour le Christ. En principe. Je vais vous lire, j'ai acheté ce livre à la FNAC hier, chez vous là, parce que vous savez qu'à Madagascar, il n'y a pas de FNAC. Ma sœur-ci va découvrir les commerces en brousse. Hein. Et je vais vous lire, j'ai acheté ce petit livre remarquable que j'ai lu 10 fois, qui s'appelle « L'homme qui plantait les arbres » de Jean Giono. C'est un roman. C'est un roman qui lui a été commandé par le Radio Digest, un journal américain, qui lui a demandé d'écrire une nouvelle. Et il a écrit ce livre, tout court. Il a été publié dans le journal, il a eu un succès fou. Jusqu'au jour où il a reçu une lettre de félicitations, d'encouragement, merveilleuse histoire, etc. Jusqu'au jour où le même journal lui a écrit en lui disant « Vous êtes un imposteur, votre histoire n'est pas vraie, votre histoire est fausse. » Et il a été étonné, il a dit « Quand on demande à un romancier d'écrire quelque chose, qu'est-ce qu'il sait faire d'autre que des romans ? » Il est tellement bien écrit qu'on croit que c'est une histoire vraie. Mais je vous lis son introduction. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus elle a laissé sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. Et ça va être toute l'histoire d'un homme exceptionnel dans ce livre, qui plantait des arbres. Sauf que cet homme, c'est un roman. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il faut vivre avec les gens pour vraiment découvrir leur caractère. Il faut que tu vives avec ton mari un peu, pour découvrir avec qui tu vis, et évidemment, vice-versa, avec ta femme. Et vous n'avez qu'à questionner mon épouse pour qu'elle vous dise l'homme exceptionnel avec lequel elle vit, n'est-ce pas ? Je disais ce matin, je racontais une histoire du livre de Ruth Belgram, la femme de Billy Graham, qui a écrit un livre « Reflet de ma vie » et une histoire à chaque page, une histoire d'une femme qui a vécu avec le plus grand évangéliste du siècle dernier, qui a passé pendant toute sa vie 6 mois en terrain d'évangélisation, et quand il revenait, 6 mois absent parce qu'il préparait la prochaine évangélisation. Et elle raconte une anecdote où elle est assise dans un stade, le stade est plein, Billy Graham est en train de prêcher l'évangile comme il savait le faire. Et donc, elle est assise et arrive une jeune femme qui s'assoit à côté d'elle. Et la jeune femme regarder Billy Graham, la bouche grande ouverte, les yeux séduits, et elle se retourne vers la femme de Billy Graham, elle ne savait pas que c'était elle, et elle lui dit « Quel homme !» Et la femme de Billy Graham lui répond « Oui, j'en sais quelque chose, je vis avec lui. » Et oui, la réalité, c'est que lorsqu'on vit avec les gens, on découvre s'ils sont vraiment crucifiés avec Christ ou pas. Il faut vivre avec les gens ou avec soi-même. Quand on vit avec soi-même et qu'on analyse, on s'analyse soi-même, on sait si on est vraiment crucifié et né de nouveau ou pas. C'est bien le défi de notre vie. Martin Luther a écrit cette phrase terrible. « J'ai noyé le vieil homme dans les eaux du baptême. » Et là, tout le monde peut dire « Amen ». N'est-ce pas ? J'ai noyé le vieil homme dans les eaux de baptême, mais ce chien savait nager. Et là, ça vous parle, n'est-ce pas ? Et là, je dirais, malheureusement, ça nous parle. Cet homme idéal écrit dans ce livre n'existe pas. Cette femme idéale écrite dans ce livre n'existe pas non plus. En Romains 14, versets 8 et 9, nous lisons « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Si donc que nous vivions, soit donc que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Très souvent, les lecteurs pensent que l'apôtre Paul ici parle de la mort physique, de la fin de la vie. C'est-à-dire, si nous vivons, ça nous le comprenons, je vis ma vie pour le Seigneur, et si je meurs, eh bien, je meurs physiquement pour le Seigneur. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit en fait de mourir dans le sens de renoncer à soi-même. Dans le sens en fait de vivre une vie de renoncement dans de nombreuses réalités de notre vie. La véritable mort, elle ne commence pas le jour de notre fin de vie, mais elle commence le jour où je suis né de nouveau. Est-ce que le jour où je suis né de nouveau, la nouvelle personne que je suis a vraiment mis fin à la personne ancienne? Est-ce que ce chien sait toujours nager ou est-ce qu'il est vraiment noyé dans les eaux du baptême? Et là, je commence à toucher une réalité qui nous concerne tous, car vous avez souvent vu ce chien sortir de l'eau. Dans votre caractère, dans vos émotions, dans vos raisonnements quelquefois, dans vos comportements. Alors évidemment, quand on est marié, on sait de quoi on parle puisqu'on vit avec l'autre et on voit ce personnage qui apparaît malheureusement de façon régulière, de façon inattendue, de façon brusque et de façon des fois les plus violentes. N'est-ce pas ? On est tous concernés. Et en vous prêchant, je sais de quoi je parle. Lorsque je me suis converti tout seul sur un lit d'hôpital, le Seigneur s'est révélé à moi sur un lit d'hôpital, je me suis converti et j'ai commencé ce merveilleux chemin avec lui, eh bien j'ai très vite compris qu'il y avait une véritable bagarre avec un bonhomme, c'était avec moi-même. Que c'était pas les autres qui étaient responsables, mais que c'était moi qui allais vivre ce combat avec moi-même. Que Christ qui vit en moi voulait sa pleine place et que moi, je voulais prendre la place de Christ qui vit en moi. Eh bien, frères et sœurs, ça fait maintenant... je ne sais pas combien, 47 ans que je suis converti. Eh bien, ce combat continue toujours. J'aimerais vous dire autre chose, mais je serai un menteur. J'aimerais vous dire, je suis l'homme le plus parfait de la terre, mieux que cette introduction. Mais il y a une femme qui se lèverait qui dirait « Qu'est-ce que tu racontes, toi, là-haut ? Tu veux que je te raconte, tu veux que je te rappelle deux, trois trucs, là ? Tu veux que je te rappelle hier soir ? Où nous sommes au restaurant ? Bien, hier soir, nous sommes au restaurant. Et j'ai tout de suite un accrochage avec la serveuse. Plutôt, elle me cherche. Elle me cherche vraiment. Et il ne faut pas me chercher. Mais il ne faut pas chercher Georges Michel, je vous le dis. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Sauf que c'est le vieil homme, ça. Ce n'est pas Christ qui vit en moi. Et ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu ma femme, puisqu'elle était restée en France, parce que nous avons notre 7e petit enfant qui vient de naître, et elle est plus amoureuse de ce petit enfant que moi. Et ça, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Elle est passionnée par ce petit bébé-là. Et je ne lui reproche pas, il est tellement beau. Donc elle m'a dit, écoute, laisse-moi profiter un petit peu de lui, j'arriverai bientôt. Et donc pendant 2 mois, on ne s'est pas vu. Vous imaginez, elle est arrivée hier après-midi, ou hier fin de matinée, c'est notre première soirée ensemble, et puis voilà que je vais me choper la serveuse. Voilà que la vieille nature veut... Mais en plus, je paye, on est au restaurant. Deuxièmement, on ne donne jamais tort à un client. Et troisièmement, j'ai raison. Ça suffit quand même pour que je me fâche et qu'elle arrête. Et ma femme me dit, mais tu ne vas pas t'énerver. Oh, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vus. On est bien tous les deux. La vieille nature, elle est là. La vieille nature, elle veut sans arrêt reprendre des droits. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 1er, cette merveilleuse déclaration, ça va être affiché, je pense. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de vivant sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que dit Paul. Il dit, je vous invite à offrir vos corps en sacrifice vivant. Pâques, c'est le sacrifice de Christ. Pâques, c'est la gloire de Dieu dans la résurrection de Christ. Mais Pâques, c'est aussi ta crucifixion sur la croix avec lui et la gloire de Dieu dans ta nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, l'Évangile t'invite à offrir ton corps en sacrifice vivant à Dieu. Mais sacrifice, c'est quoi ? Eh bien, c'est la mise à mort. Chaque fois qu'il est question de sacrifice dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il s'agit bien de tuer un animal. La finalité du sacrifice, c'était pour les Romains, pour les Grecs, pour tous les gens du bassin méditerranéen et pour les Juifs, la notion de sacrifice, c'était très clair pour eux. Toutes les religions pratiquaient des sacrifices. Ça faisait partie du quotidien permanent. Dès qu'on était enfant, de la réalité qu'on sacrifiait aux dieux des animaux pour leur plaire, pour éviter leur colère, et pour les juifs, pour le pardon. Christ en est l'image parfaite de ce sacrifice. Il a sacrifié sa vie pour nous. Et donc Paul dit, eh bien, il en est de même pour vous. Vous donnerez vos vies en sacrifice. Et ce mot sacrifice, qui en latin veut dire rendre sacré, eh bien ce mot sacrifice, c'est justement la réalité de la fin de notre vieille nature. Et cette vieille nature qui va revendiquer des droits jusqu'à ce que vous quitteriez ce corps charnel. J'aimerais vous dire, mais non, ça va se régler, mais non, la vieille nature reste la vieille nature. Ça ne veut pas dire qu'elle doit exister, ça ne veut pas dire qu'elle doit dominer notre vie, et bien au contraire. Je me souviens d'un jeune couple qui, marchant sur le mariage, engagé, fiancé, engagé pour se marier, lui vient me demander un rendez-vous et me dit « Pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi ». Je dis « Vas-y, dis-moi pourquoi tu veux que je prie pour toi ?» Voilà. En fait, plus je fréquente ma fiancée, plus je la désire. Je voudrais te libérer de ce péché. Oh mon gars, là, tu vas où? Il est heureux que tu désires celle qui va être ta femme. Ça fait partie de la vie. Tu peux pas. Ça serait grave si c'était pas comme ça. C'est la beauté de la vie. Pour autant, tu vas devoir apprendre à tenir en laisse le lion. C'est pas lui qui doit gagner la bataille. C'est la meilleure image, en fait, de voir qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas continuer à faire quand on est chrétien. Et en même temps, elles veulent toujours exister. Évidemment, vous le savez, ça touche bien souvent aux blessures de notre vie, à la façon dont nous avons aussi les exemples que nous avons eus par rapport à nos parents ou aux conditions dans lesquelles nous avons grandi. On voit très bien les systèmes de répétition, ce qu'on appelle le transgénérationnel, dans la violence, la façon dont on parle à sa femme, très souvent. Eh bien, on a eu le super modèle négatif de son propre père qui parlait de façon violente, et on reproduit ces choses-là, et bien d'autres choses de ce type-là. La réalité, c'est que l'Évangile nous invite à donner nos corps en sacrifice à Dieu. Pas n'importe quel sacrifice. Vivant, sain et agréable. Vivant, sain et agréable. Trois choses essentielles. Vivant pourquoi ? Parce que effectivement, alors que nous sommes crucifiés avec Christ, nous sommes dans une vie nouvelle. Et chaque fois que je vais m'égarer de ça, eh bien, je ne serai pas dans une vie nouvelle. Je veux juste vous lire un verset biblique, si je le trouve. Je l'ai dans ma note ici, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. Voilà. Regardez bien ce que dit Paul aux veuves. Ça, c'est très intéressant. Paul en 1 Timothée 5, 4 et 6. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'elle apprenne avant tout à exercer la piété envers leurs parents, ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Vous voyez toujours le mot agréable à Dieu. Paul dit, tu veux être agréable à Dieu, si tu es veuve, continue à honorer tes parents et à t'occuper d'eux. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la supplication et la prière. Encore une autre façon d'être agréable à Dieu, persévérer dans la supplication et la prière. Mais écoutons ensemble le verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. L'apôtre Paul ici introduit une idée très intéressante qui est celle que l'on peut être vivant, mais en fait mort. Que veut-il dire ? Il veut clairement parler de la personne qui vit selon la chair. La personne dont sa vieille nature n'a pas été crucifiée avec Christ. Et chaque fois que je laisse ma vieille nature dominer ma nature spirituelle, eh bien je suis mort et pas vivant. Et croyez-moi, l'homme qui vous parle sait de quoi il parle. Et la femme qui écoute pourrait dire « Amen ». Et alors, regardez-là, elle dit « Oui, 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 d'accord ?» Oui. Si je me sers d'exemple, ce n'est pas parce que je suis le centre du monde. C'est que pour vous dire que la réalité qui m'habite est la même que la vôtre, et vous le savez. Quand l'égoïsme prend le dessus, je suis mort plutôt que vivant. Et ce n'est plus Christ qui vit en moi, c'est moi qui vis tout seul. Quand la jalousie prend le dessus, je suis mort plutôt que vivant. Et ce n'est pas Christ qui vit en moi, c'est peut-être jusque le diable qui vit en moi. Quand la colère me domine, ce n'est pas Christ qui vit en moi. La réalité, en fait, que l'on peut être vivant et mort. Et pourtant, Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Votre vie en sacrifice vivant ». Et donc, en fait, il nous invite à rentrer dans une autre dimension de notre vie. C'est de ne pas laisser ce chien savoir nager dans notre existence. En trouvant des fausses excuses de « c'est mon caractère » ou « j'ai toujours été comme ça » ou « il faudra t'y faire ». Eh bien non ! Eh bien non ! Le chien, il doit être noyé. Et pour certains, c'est un sujet, et pour d'autres, il est autre. On n'a pas tous les mêmes réalités à affronter dans notre vie. Mais il faut vraiment que le vieil homme meure à la croix. Et c'est la belle, et je dis bien, la belle aventure du christianisme. C'est la belle aventure de la foi. Cette réalité qu'une nouvelle nature doit naître, semblable à Christ dans notre vie. Et nous ne devons ni nous décourager, ni désespérer, parce que Christ le souhaite pour nos vies. Christ nous invite à être à son image. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est bien plus que juste vivre des choses qui font qu'on pourrait penser que tout ça c'est bien. L'essentiel, c'est que ce que nous fassions corresponde à ce que Dieu souhaite dans nos vies. Et Paul va plus loin, vivant et saint. Saint, c'est justement le combat dans la réalité de notre péché. C'est ce combat dans lequel, en fait, eh bien, le péché ne doit pas dominer sur notre vie. Rappelez-vous cette terrible phrase qui a été donnée au deuxième homme de l'humanité, Abel et Caïn. Lorsque Caïn est furieux contre Dieu parce qu'il n'a pas agréé son offrande, Dieu lui dit « Le péché se tapit à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Sacrifice saint, c'est toi, domine sur le péché qui se tapit à ta porte. Grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole, grâce à la puissance de Dieu. Mais toi, domine. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas capables de dominer. Ce n'est pas vrai. En Jésus, nous avons la force. Lorsque je me suis converti, vous savez, moi j'étais un garçon un peu curieux, j'ai appris à fumer à 8 ans. J'étais très précoce. Hein. Qui fait que quand je suis arrivé au Seigneur, à 20 ans, j'étais déjà ce qu'on appelle un gros fumeur. À 20 ans, j'ai fumé 3 paquets de cigarettes par jour. Et champion du monde, mes parents ne l'ont jamais su. Parce que pour mon père, c'était inadmissible de fumer. Et donc, comme je ne voulais pas avoir d'histoire avec lui, dès 8 ans, j'ai appris à tout bien organiser pour qu'on ne sente pas le tabac. Je me suis fait attraper une fois par ma sœur qui m'a dit « Mais tu as fumé, toi ? » J'avais 10 ans. J'ai dit « Oui, pourquoi ?» Elle m'a dit « Mais va te laver les dents, va faire ce que tu veux, mais il ne faut pas que maman le sache. » Et à 20 ans, quand je me suis converti, que le Seigneur m'a visité, la première chose que le Seigneur a voulu traiter, c'est ça. « Mais vous savez quoi ? » ?»« Eh bien, par mes forces, j'ai dit « Je vais y arriver. » J'ai acheté un paquet de Marlboro, j'ai fumé une Marlboro, je disais non, j'écrasais le paquet, et j'ai fini de fumer. 5 minutes après, j'ai acheté un autre paquet, et l'histoire, elle a commencé à me coûter cher, je vous le garantis. Mais avec l'aide de Dieu, un jour, j'ai pu toucher une cigarette. Parce que Dieu m'avait dit, ça, tu t'en débarrasses. Dieu te demandera de te débarrasser de choses qu'il ne me demandera pas à moi. Peu importe, l'essentiel, c'est que tu lui obéisses, que tu sois saint. On raconte l'histoire un jour d'un garçon qui était passionné de baseball. C'était son Dieu, le baseball. Et il ne connaissait rien d'autre de plus important dans sa vie. Et consacrait tout son argent à tous les matchs de baseball, et il connaissait évidemment tous les sportifs dans ce domaine-là, etc. Et le jour où le Seigneur est venu le confronter, qu'il a donné sa vie à Jésus, la première des choses que le Saint-Esprit lui a demandé, quitte ce Dieu. Arrête. Consacre ta vie à autre chose. Lâche ça. Et il a compris que cette injonction de Dieu n'était pas une plaisanterie. Pour lui, ça devait être un sacrifice. Dieu ne te demandera jamais le même sacrifice à l'un ou à l'autre. Les choix que Dieu fait sur ta vie, c'est à toi, c'est pas aux autres. Et il a donc radicalement arrêté. Et il s'est consacré au Seigneur. Un dimanche, à la fin du culte, il y a le pasteur George et le pasteur Steve qui parlent ensemble. Le jeune est juste à côté. Et pasteur Steve dit à George, pasteur Steve dit à George, « Dépêche-toi, on va louper le match de baseball. » Et le jeune entend ça. Et là, il dit, « Mais ce sont des païens !» Et il quitte l'église. Et il vient plus, « Si c'est ça être chrétien, j'en veux pas. » Il quitte l'église. Et quelques temps plus tard, le pasteur, Steve, dit, « Mais on le voit plus, lui, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, ils envoient quelqu'un le voir pour discuter avec lui. Il dit, mais moi, j'ai quitté l'église parce que les deux pasteurs, c'est des vrais païens. Ils vont voir les matchs de baseball. Et de quoi tu parles? C'est pas un péché d'aller voir un match de baseball. Et c'est après qu'ils ont compris que Dieu lui avait demandé de sacrifier ça dans sa vie pour continuer à le suivre. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu te demande en sacrifice de sainteté n'est pas forcément ce qu'il va demander à quelqu'un d'autre, parce que c'est des choses à traiter dans ta vie et pas dans celle de l'autre. Mais n'empêche que soyez saints comme votre Père céleste est saint, c'est une des grandes aventures de la vie chrétienne, devenir saint. Enfin, agréable à Dieu, vivant, saint et agréable à Dieu. Pâques, c'est notre résurrection, mais pour vivre de façon agréable à Dieu. Toute la vie chrétienne est la recherche de cette « qu'est-ce qui te fait plaisir, Seigneur, que je vive dans ma vie ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce que c'est qui est agréable pour toi, mon Dieu ?» Et ce n'est pas la même chose. Et donc, en fait, eh bien, c'est cette recherche au quotidien de la volonté de notre Père pour notre vie. Qui n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie, n'est pas la volonté de Dieu pour la tienne. Dieu va te demander des choses qui lui sont agréables, qu'il ne me demandera pas à moi. Il a formulé un appel sur ma vie dès l'instant où je l'ai rencontré sur un lit d'hôpital, alors que je n'avais été évangélisé de personne. Il m'a dit « Tu seras pasteur ». Je ne savais même pas ce qu'était un pasteur. Je n'avais jamais rencontré de ma vie. J'étais allé dans aucune église. Je n'avais aucune conscience de ce qu'était le ministère pastoral. Mais Dieu a pointé du doigt. Et tu me seras agréable à condition que tu obéisses à ce que je veux. Plus tard, je disais au Seigneur, je te suivrai partout, sauf à Paris. Et j'ai été pasteur 30 ans à Paris, en région parisienne. Pour moi, c'était impensable d'habiter dans cette région. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et on pourrait rentrer dans tous les détails de la vie bien plus bas, où Dieu nous pose la question, est-ce que ce que tu vas faire m'est agréable ou va être ta volonté? Parce qu'il s'agit bien de cela. Mon moi contre la volonté de Dieu. Je suis toujours amusé lorsque je vois certains, je ne juge pas, ça m'amuse, certains sites Facebook de certains pasteurs. Je trouve ça délicieux, moi. Je pense à un pasteur malgache, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Toutes ses publications, c'est moi en photo. Il est toujours en photo. C'est ça la façon de prêcher l'Évangile ? Se mettre en avant ? Est-ce que sincèrement, c'est agréable à Dieu ? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? Il y a bien quelque chose qu'il n'a pas compris. Qu'annoncer l'Évangile, ce n'est pas se mettre en avant soi, c'est mettre en avant le Seigneur. C'est donner aux autres l'occasion d'être le reflet de Christ. Tu utilises Facebook ou les réseaux sociaux pour ça. Tu n'utilises pas pour raconter ta vie ou être toi. Ça n'a aucun intérêt. J'ai raconté ce matin une histoire extraordinaire. Parce que les pasteurs sont les champions pour faire la volonté de Dieu. Vous le savez tous. Sauf que généralement, ils font leur volonté à eux. Trop souvent. Parce que comme les autres, ils ont ce chien qui veut savoir nager et qui veut dominer leur vie. Et vous le voyez, c'est pour ça qu'il y a tant de disputes dans le corps pastoral. Quand même extraordinaire. Vous savez, moi, je suis venu pour la première fois en 1995 à l'île de la Réunion. Ça date, hein? Donc depuis, je suis revenu de très nombreuses fois. Je le disais au pasteur Steve, je disais, tu sais en fait, la meilleure définition que j'ai de l'île de la Réunion, c'est que l'île de la Réunion, c'est un gros panier de homards, de crabes plutôt, avec des pinces, comme les homards, qui passent leur vie à se foutre des coups de pince. Et là, je parle du corps pastoral à la Réunion. Voilà ce que je vois à la Réunion. Que des crabes avec des grosses pinces qui passent leur vie à se foutre sur la tête. J'ai jamais connu un endroit où il y avait plus de querelles pastorales que sur votre île. C'est extraordinaire. Je ne juge pas, je vois cette réalité. Pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup de gens ne savent pas vivre, même dans le pastorat, de façon agréable à Dieu. C'est leur moi qui domine. Je racontais l'histoire tout à l'heure, dans le premier culte, toujours la femme de Billy Graham qui raconte une histoire délicieuse. Évidemment, son mari n'était pas pasteur, donc elle avait un pasteur. Elle était membre d'une très grande église aux États-Unis, et son mari, toujours absent, lui, venait au culte quand il était là. Et elle, elle a élevé ses 5 enfants quasiment toute seule. Elle raconte le délice d'élever 5 enfants toute seule, avec toutes les difficultés que ça peut représenter, surtout en crise d'adolescence. Et le pasteur, un jour, a la brillantité de dire à Madame Graham, « Je prends votre fils et nous allons vivre une journée entre hommes ensemble. » Voilà que, dit d'accord, avec plaisir, donc il vient le matin avec sa voiture, il prend le petit garçon, et elle ne sait pas ce que c'est une journée entre hommes avec son fils. Elle dit, ça va être quelque chose tout à fait honorable et correct. Puis voilà que 2 heures après, le garçon revient et il rentre dans la maison, elle le voit rentrer, il dit, tu es déjà là, qu'est-ce qui se passe? Et le garçon lui dit, je te dirai rien, je te dirai rien, je te dirai rien, et il monte dans l'escalier, et il rentre dans sa chambre, il s'enferme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut rien parler, elle essaye de le questionner. Je ne te dirai rien, je ne te dirai rien. Le soir, le téléphone sonne. Allô, Madame Graham? Oui, c'est le pasteur. Je vous téléphone pour vous présenter mes excuses et vous demander pardon. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, je vous avais dit qu'on allait faire une journée entre hommes. Donc je l'ai amené dans une carrière pour lui apprendre à tirer au revolver. Il n'y a que les Américains pour faire des trucs pareils, n'est-ce pas? Et donc, en voulant dégainer, lui apprendre à dégainer, je me suis tiré dans le pied. Et donc j'étais blessé, et j'ai dit à votre garçon, surtout ne le dis pas à ta mère! Qu'est-ce qui peut prendre un pasteur de demander à un enfant de mentir? Qu'est-ce qui peut prendre un pasteur de vouloir cacher une vérité risible ou moins risible, peu importe, la vieille nature pourra rapidement prendre le dessus. Imaginez la scène le lendemain où le pasteur, devant son auditoire de 3000 personnes, monte boitant et devant expliquer à l'église qu'il s'est tiré dans le pied. Notre vieille nature peut ressurgir de tellement de façons et à des moments les plus inattendus. Alors que Dieu nous demande une vie agréable. Et ça doit être notre quête de chaque jour. Seigneur, qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui qui te sera agréable? Et le soir, quand je me couche, qu'est-ce que j'ai vécu qui ne t'a pas été agréable? Oh, le Saint-Esprit, il n'est pas trop long à répondre. Hein. Il est assez réactif, hein. Tout de suite il aiguise ta conscience, il te rappelle, tu n'as pas besoin d'aller chercher là, ou alors, sincèrement, tu as besoin de retourner dans les eaux du baptême et que le pasteur Steve te laisse la tête sous l'eau au moins 5 minutes, hein, pour que vraiment le vieil homme soit mort. Hein. De temps en temps, moi je le dis, hein, je dis celui-là, il faudrait le rebaptiser et lui laisser la tête au moins 10 minutes sous l'eau, parce que il n'est pas mort celui-là. Hein. Mais des fois, c'est peut-être moi qui devrais être rebaptisé avec la tête sous l'eau 10 minutes, n'est-ce pas? Et mon épouse devrait dire amen. Frères et sœurs, quel beau défi de vivre nos vies en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ça, c'est Pâques. Pâques, ce n'est pas seulement un événement d'il y a 2000 ans, d'une mort et d'une résurrection glorieuse, mais c'est aussi la réalité qu'au XXe siècle, tu es mort et tu es vivant. Vivant pour Christ jusqu'à l'éternité. Que Dieu vous bénisse, je vais prier pour vous. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour ton amour. En ce dimanche de Pâques, nous célébrons et nous commémorons cette grande réalité que la plus grande folie de Dieu eût été qu'il se fût homme en toi. Que tu viennes jusqu'à la croix, que tu portes tous les péchés de l'humanité et que en lui tu aies eu la victoire sur la mort. Mais nous rappelons aussi que nous sommes associés à cela. Que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Que c'est nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Que nos vies sont ces vases qui accueillent la présence de Dieu. Que nos vies sont ce récipient qui accueille ce Dieu vivant et qui, en fait, sont appelés à en déborder. Lorsque ta parole nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », il s'agit en fait de ce mot grec « pimpili » qui veut dire « plein comme une femme est remplie de sa grossesse ». Le Saint-Esprit doit nous habiter dans cette réalité, au point qu'un jour, comme l'enfant qui sort, le Saint-Esprit déborde. Nous voulons, Seigneur, ce matin, et je prie pour chacun et chacune ici en ce lieu, marcher dans une vie de sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. L'apôtre Paul dit « Et ce sera de votre part un culte raisonnable. » En ce sens où le culte que nous avons à te rendre, ce n'est pas seulement le dimanche, dans une heure ou deux, mais c'est dans une vie tous les jours qui cherche à t'être consacrée. En toi, nous avons la force. En toi, nous avons la libération. En toi, nous avons la délivrance. En toi, nous avons le renouvellement de l'intelligence. En toi, nous avons la transformation. En toi, nous avons la vie. Et nous l'avons en abondance. Nous venons à toi, Seigneur, en te disant, viens, remplis nos vies. En te disant, viens, par ton esprit, transforme nos vies. En te disant, viens, par ta parole, renouvelle notre intelligence. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta grâce. Fais de nous des hommes et des femmes nouveaux. Fais de nous des hommes et des femmes totalement renouvelés. Ma prière est pour mes frères et sœurs en ce lieu. Que ta grâce les atteigne et ta bénédiction les touche. Qu'ensemble nous puissions voir Christ qui vit au milieu de son peuple et dans les cœurs des hommes et des femmes. Te bénissons pour cela. Nous te rendons grâce. Et nous fondons notre espérance et nos convictions en toi. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.